La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole
France Culture.
La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur.
Vous écoutez.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Ce que nous connaissons de Plutarque, philosophe, historien, écrivain, né en Grèce en 45, ne nous prépare pas nécessairement à entendre le cours que John Shedd consacre à ces questions romaines. Pour John Shedd, en effet, la lecture de ce livre permet de pénétrer dans la religion, les institutions et la société de la Rome antique sous la forme d'une promenade imaginaire. Plutarque aurait écrit quelque chose comme un guide de la culture romaine en 113 questions, dont l'apparent désordre trouve son sens dans le rapport à l'espace où les questions sont suscitées par les monuments que regarde successivement le lecteur. Mais comme les guides, dont Plutarque se moque dans ses questions grecques qui multiplient les digressions, notre auteur s'engage souvent lui-même dans des digressions ou dans une suite de questions qui s'enchaînent par association d'idées, comme l'illustre le lien entre les questions 68 et 69 sur lesquelles se terminait le cours d'hier. La question 68 porte en effet sur les Luperques, ces hommes qui, en février, le jour des Lupercales, la fête du loup, courent à travers la ville presque nus, vêtus d'un simple pagne, en frappant ceux qu'ils rencontrent d'une lanière de cuir. La question suivante, 69, porte, elle, sur la fête des sept collines, le Septimontium, qui célébrait l'inclusion de la dernière colline dans le territoire de Rome. Ce jour-là, il était interdit de circuler en voiture attelée. Le lien semble là thématique. Il s'agit, dans les deux cas, du territoire de la ville, parcouru par les Luperques, ou, au contraire, interdit aux voitures attelées. La question 70 enchaîne maintenant sur cette même idée de l'attelage.
Appelle-t-on fourquiféri, porteurs de fourches, ceux qui sont condamnés pour vol ou d'autres délits d'esclaves? Est-ce encore une preuve de la prévoyance des anciens? En effet, quand on condamnait un esclave né dans sa maison pour quelque délit, on lui ordonnait de prendre la pièce de bois fourchu qu'on place sous les chariots et de circuler à travers la maison ou le voisinage sous les yeux de tous, afin qu'on se méfie de lui à l'avenir et qu'à l'avenir, on soit sur ses gardes avec lui. Nous appelons cette pièce de bois stérigma, béquille, les Romains furca, fourche. C'est pour ça, pourquoi celui qui la portait alentour était appelé furquifère, porteur de fourche. La coutume est décrite de manière plus précise par Plutarque dans la vie de Coriolan, 24. Le timon des voitures des anciens, écrit-il, est fixé à une fourche en forme de V, qui est posé sur l'axe antérieur et dont le V est fermé par une pièce transversale. Il s'agit en somme d'un A majuscule, notre A majuscule, et aussi celui des Grecs. On mettait la pièce en question sur les épaules de l'esclave, de sorte que sa tête passe à l'intérieur et que ses bras soient liés aux fourches. Parfois, il recevait en outre des coups. Nous constatons que le lien est thématique et ne pose pas de problème. C'est le chariot, l'attelage. Tout comme la question suivante, qui poursuit dans la même veine. Pourquoi met-on du foin à la corne des bœufs qui avaient tendance à donner des coups de corne afin que ceux qui les croisaient s'en gardent? Est-ce parce que les bœufs, les chevaux, les ânes et les hommes débordent d'énergie quand ils ont mangé à satiété et abondamment? Ainsi, quelque part, Sophocle écrit « Toi, comme le poulain sous l'effet de la bonne pâture, tu bondis, car ton ventre et ta bouche sont pleins. » C'est aussi pourquoi les Romains disaient que Marcus Crassus, le fameux Crassus, le riche, lui aussi portait du foin. En effet, ceux qui déchiraient les autres dans la vie publique se méfiaient de lui, sachant qu'il était prompt à se défendre et difficile à attaquer. Néanmoins, plus tard, on dit au contraire que César avait enlevé le foin à Crassus, car il fut le premier à s'opposer à lui dans la vie publique et à le traiter de haut. Il n'y a aucun problème pour relier cette question au même thème que le précédent. Il s'agit d'une série d'histoires concernant les attelages, et dont le point de départ se trouve dans la question sur le septimontium. On notera seulement que Plutarque introduit ici, en outre, les plaisirs de la table. De l'attelage, pour une raison tout à fait fortuite, on ne comprend pas très bien, mais vous allez comprendre. De l'attelage, dont il vient de commenter le timon, il choisit pour cette question-ci les bœufs de trait et leur nourriture, le foin. La question suivante n'a, à première vue, pas de lien avec la précédente. À première vue, dis-je. En fait, par la mention du foin et de la bonne pâture, Plutarque a déjà orienté l'esprit du lecteur vers le repas, ce qui permet de renouer avec trois thèmes et une source déjà abordée précédemment. Pour quelle raison pensait-il que les laternes des prêtres préposées aux signes tirés du vol des oiseaux, qu'on appelait jadis les auspices, maintenant les augures, devaient toujours être ouvertes et jamais surmontées d'un couvercle? Est-ce qu'à la façon des pythagoriciens qu'ils faisaient de petits détails les symboles de grandes choses, en s'interdisant de s'asseoir sur sa ration et d'attiser le feu avec le couteau sacrificiel? Les anciens se servaient souvent d'énigmes, et surtout à propos des prêtres, comme l'est précisément l'interdit relatif à la lanterne. Car la lanterne ressemble au corps qui enveloppe l'âme. Donc il s'agit d'une sorte de mystère, d'énigme. La lanterne ressemble au corps qui enveloppe l'âme. L'âme qui est à l'intérieur, écrit Plutarque, est une lumière, et sa partie intelligente et sensée doit en permanence être déployée et vigilante, et elle ne doit jamais rester fermée ni invisible. Or, quand il y a du vent, les oiseaux ne sont pas stables et ne donnent pas des signes sûrs, parce que leur vol est erratique et irrégulier. On enseigne donc par cette coutume aux augures de procéder à l'observation, non pas quand il y a du vent, mais quand il y a absence de vent et temps calme, quand ils peuvent se servir de leur lanterne ouverte. Les auspices, on pourrait dire les auspices dont il est question chez Plutarque ou dans sa source, sont une appellation, un terme ancien pour les techniciens de l'observation des signes par les oiseaux. Ce terme n'est effectivement plus guère employé, comme le dit Plutarque, au sens actif à l'époque historique, quand il désigne plutôt au neutre auspicium le signe lui-même qui est pris par les magistrats, le consul, le préteur. Les deux dictons pythagoriciens signifient que l'ordre du monde est bouleversé, puisqu'on fait des choses incongrues, c'est-à-dire on confond le boisseau de céréales, c'est-à-dire le repas ou la table, avec une chaise, et le feu de l'autel avec la victime sacrificielle. Les interprétations considèrent donc le geste et la lanterne soit comme des symboles, soit comme des objets fonctionnels. On notera que les deux proverbes pythagoriciens associent les deux thèmes examinés dans la source dont Plutarque s'inspire, la table et la lampe. Pour ce qui nous intéresse, le lien avec ce qui précède est clair. Je ne pense pas que la mention par Plutarque du déplacement calme ou erratique des oiseaux puisse offrir une transition. On a plutôt l'impression qu'il renoue avec la question 65 sur le fait que les jeunes mariés éteignaient leurs lampes. Cela confirmerait que tout ce qui se trouve entre la 65e et la 72e question appartient à cette digression. D'autre part, le thème des prêtres anciens semble se poursuivre et sans doute Plutarque continue de suivre la source qui en traite. En outre, le thème de la lampe qu'on éteint, qu'on laisse brûler ou qu'on ne doit pas enfermer, renvoie au thème de la table développé dans la question 64 déjà. On se rappelle que la question précédente introduisait, donc celle qui précède les augures, celle des attelages, introduisait la bonne pâture dans l'argumentation sans trop de raison, à vrai dire. J'ai supposé que ces commentaires permettent à Plutarque de revenir au thème de la table qu'on laisse chargée de vivre. Autrement dit, l'impression s'impose que Plutarque travaille avec plusieurs documents, deux sources sur les coutumes et sur les prêtrises anciennes, dans lesquelles il insère éventuellement des digressions, ainsi qu'un certain nombre de références au contexte topographique, comme nous l'avons vu précédemment. Les coutumes, ce sont évidemment les coutumes relatives à la table et à la lampe. Donc il combine ces deux thèmes, ces deux types de sources, et parfois cherche un appui dans la topographie, qu'on pourrait également évidemment signaler pour les Luperques. La 73e et la 64e question en apportent la démonstration de cette combinaison. Pour quelle raison était-il interdit aux prêtres ayant une blessure de siéger pour prendre les augures? Est-ce que cela symbolise aussi que ceux qui s'occupent des affaires divines ne doivent être incommodés en rien, ou bien n'avoir dans leur âme aucune morsure, blessure ou souffrance, mais être exempt de chagrin, de lésions et de distractions? Ou bien est-il conforme à la raison que dès lors qu'on n'utilise pas pour un sacrifice une victime présentant une lésion, ni des oiseaux blessés en vue des présages, de telles précautions soient prises encore davantage pour soi-même, et qu'on s'avance vers les signes envoyés par les dieux en étant pur, intact, entier? Car la lésion semble être une sorte de mutilation et de souillure du corps. Je traduis dans l'intitulé de la question « ep oionon » par « en vue des augures » et non « en vue des auspices ». Car il s'agit clairement des prêtres dans cette question, des hiereis, autrement dit des augures, au masculin, n'est-ce pas, et non des magistrats, consuls ou prêteurs qui observent des signes. Or, d'après l'usage prédominant de la fin de la République et de l'Empire, les augures, au masculin, les prêtres, prennent ce qu'on appelle des auguria, de augurium au neutre, on traduit des augures, ça crée parfois des ambiguïtés, alors que les magistrats et aussi les particuliers, quand ils observent des signes, prennent, comme on dit, des auspices. Ils ne prennent pas d'augures. Le terme d'augure tente à être limité aux augures. C'est pour cela que je traduis de cette manière-là. La prescription en elle-même est connue par d'autres sources, notamment par les nuits attiques d'Aulus Gellius, appelées Olugel sous ses cieux, qui évoquent l'intégrité physique des augures. Plutarque explique la règle de deux points de vue, soit la plaie est un symbole, soit elle est prise en compte au premier degré en tant que plaie. C'est une façon qu'il a fréquemment d'analyser les choses. Hein. La chose en elle-même, la chose en tant qu'elle énonce, un énoncé de quelque chose d'autre. Par elle-même, la blessure est une souillure, et par là, elle est incompatible avec un rite religieux. En tant que symbole, elle renvoie à la nécessaire concentration du célébrant. Et quand vous avez une blessure quelconque, notamment à l'âme, par exemple, vous êtes distrait. Les deux interprétations se complètent, en fait. D'un côté, la prescription énonce une qualité du célébrant. De l'autre, elle renvoie à la qualité de son action. Hein, vous voyez que c'est toujours construit avec le plus grand soin. Mais revenons à notre hypothèse. Il est clair que Plutarque développe le thème concernant les augures, les prêtres, et sans doute s'inspire de la même source que dans les autres questions sur les prêtrises anciennes. Lisons maintenant la question suivante. Pourquoi le roi Servius Tullius a-t-il construit le temple de la petite Tuque qu'on appelle Brevis? La fortune courte, brève. Vous aurez noté ce bel exemple de mélange de grec et de latin qui aboutit à ce qu'on appellerait un sabir qui doit faire frémir les puristes du grec. La Tuque pour fortune. C'est bon parce qu'à l'époque de Plutarque, on considérait que la vieille Fortuna originaire du Latium, mais qui n'est qu'une divinité du Latium, recouvrait la Tuque hellénistique. Soit. Sont en revanche transcrit en grec Servius Tullius, Servios Tullios, très bien, ce qui est normal, mais étrangement aussi Brewen, à l'accusatif. Hein, Tuches Hieron, hen Brewem Calusi, qu'ils appellent Brewem, à l'accusatif, comme dans l'explication Quem Brewem Vocant. On voit qu'ils citent littéralement une source latine dans ce passage. Mais continuons. Est-ce parce que, petit au début, exécutant des tâches obscures et né d'une captive, Servius fut roi de Rome grâce à Tuquet? Ou bien, ce changement faisant voir la grandeur de Tuquet plutôt que sa petitesse, est-ce que Servius, plus que quiconque, a divinisé la puissance de la fortune en plaçant tous les actes sous sa protection? En effet, il ne bâtit pas seulement des temples à la Tuquet du bon espoir, la Tuquet tutélaire, la Tuquet douce, la Tuquet première-née et la Tuquet virile, mais n'y a-t-il pas encore un temple de la Tuquet privée, un autre de la Tuquet qui se retourne, un autre enfin de la Tuquet vierge? Pourquoi présenter les autres épiclèses quand il y a un temple de Tuquet engluante qu'on appelle Viscata pour la Tuquet visqueuse, littéralement, pour indiquer qu'elle nous attrape de loin et nous colle aux circonstances? Vois cependant si ce n'est pas parce qu'il comprit que, même petit, le pouvoir de Tuquet est grand, et que le fait que quelque chose de minime se produise ou non a permis à certains d'être chanceux ou d'échouer dans les grandes entreprises. Que Servius a construit un temple à la petite Tuquet, la Tuquet courte, enseignant de faire attention aux circonstances et de ne pas mépriser une circonstance en raison de son insignifiance. Une remarque sur la construction de l'explication de la relation entre Fortuna Brevis, ou petite Tuquet, et Servius Tullius. La première explication concerne Servius lui-même. La seconde, au contraire, Fortuna Tuquet. Dans le premier cas, c'est le sort personnel de Servius qui est en cause, car de petit, il est devenu grand. La deuxième interprétation poursuit sur cette voie. Servius était conscient de la grandeur de Tuquet plutôt que de sa petitesse, car il plaçait toutes ses actions sous son patronage. Il veut souligner par là que le pouvoir de Fortuna réside dans le détail. Donc Servius Tullius est passif dans la première interprétation, actif dans la seconde. Pour prouver que Servius a construit le plus de temples de fortune, Plutarque énumère toute une liste de temples dont certains étaient effectivement attribués par la tradition au roi. Vous voyez qu'il y a toutes les fortunes que j'ai énumérées, je vous les donne en grec, en latin et avec la traduction, et je vous ai mis également les emplacements. Il y en a deux qui sont inconnues, la Fortuna Averunca et la Fortuna Brevis, on ne sait pas où leur temple se trouvait. D'autres, comme la Fortuna Félix du Bon Espoir, d'après Plutarque, se trouve au Quirinal. Il y en a deux qui sont placés au Capitole, Fortuna Obsequens et Fortuna Primigenia, que nous allons rencontrer dans l'avenir. Et enfin, il y a sur le Forum Boarium, mais on ne sait pas où, la Fortuna Virgo. Dans la vallée du Cirque, la Fortuna Virilis, sur l'Esquilin et le Palatin, la Fortuna Respiciens, qui se retourne, qui regarde vers l'arrière, et toujours sur le Palatin, la Fortuna Privata, et la Fortuna Viscata, qui est comme les oiseleurs qui attrapent avec de la glu les oiseaux, qui vous attrapent, n'est-ce pas, les circonstances vous attrapent, et il y a une fortune Xeutria qui parraine ce type de hasard. Quel est maintenant le lien avec la question précédente? Nous sommes loin du thème des prêtres et de celui qui concerne la table et la lampe. En revanche, on peut se demander s'il n'existe pas une double passerelle thématique à partir de la question précédente. D'une part, le fait d'agir sans s'occuper des circonstances ambiantes, comme écrit Plutarque, peut provoquer une mauvaise fortune. Or, faire cela quand on observe le ciel sans tenir compte d'une lésion physique, par exemple, représenterait une telle situation. Donc, un lien possible. D'autre part, on pourrait même considérer la petitesse sociale, fils d'esclave, fils de servante, du futur roi Servius, comme une lésion qui aurait dû le disqualifier pour la fonction royale. mais qui, grâce à la fortune des petits, la fortuna brevis, lui permit de devenir roi. J'avoue toutefois que même si elle est jolie, cette deuxième interprétation appuie un peu trop sur les mots, pour ainsi dire. C'est sans doute le détail, la circonstance en apparence petite, mais qui se révèle décisive, qui relie les deux questions. Un petit détail dans l'observation, un petit détail dans l'action peut avoir des résultats importants. Enfin, comme dans certaines des questions précédentes, nous avons vu le cirque Flaminius, le temple de Bellone, la course des Luperques, c'est aussi la topographie qui établit des liens. Fortuna possédait en effet un temple à quelques mètres de l'endroit où l'auteur est censé se tenir. Je l'ai déjà cité plusieurs fois. Plutarque mentionne une foule de temples de Fortuna, et ce n'est pas forcer le texte que de supposer que celui de l'angle du Forum Boarium peut être concerné davantage que les autres. À chaque fois que Ovide évoque Servius Tullius, et par exemple à propos de la Porta Fenestella, vous vous rappelez, c'est de ce temple qu'il parle, de celui du Forum Boarium, et donc il y a son anniversaire le 11 juin avec celui de Mater Matuta qui se trouve à côté. Nous aurions donc à nouveau, dans une digression, un élément, un accrochage topographique pertinent. La question suivante confirme notre hypothèse que dans tout ce passage, Plutarque suit toujours un thème et une source donnée. Pourquoi n'éteignait-il pas une lampe, mais la laissait-il s'éteindre d'elle-même? Est-ce parce qu'il la vénérait en tant que parente et sœur du feu inextinguible et immortel? Ou bien est-ce encore un symbole pour énoncer qu'il ne faut ni détruire ni supprimer ce qui est vivant, s'il ne cause aucun dommage, puisque le feu ressemble à un être vivant? En effet, il a besoin de se nourrir, il se meut de lui-même, et quand on l'éteint, il laisse échapper un son comme s'il était tué. Ou bien la coutume nous enseigne-t-elle qu'il ne faut détruire ni le feu, ni l'eau, ni aucun des autres biens nécessaires quand nous en avons à satiété, mais qu'il faut permettre à ceux qui en ont besoin de les utiliser et de les laisser à autrui, lorsque nous n'en avons plus l'utilité nous-mêmes. Puisque nous avons lu les questions précédentes, vous constatez par vous-même que Plutarque renoue ici avec la question 72, sur les lampes des augures, et plus généralement avec l'argument de la table et de la lampe, dont il est également question dans les problèmes de banquet. Nous pouvons maintenant résumer la progression de cette digression qui commence vers la question 62 et qui se continue ici. J'ai l'impression, en contemplant cet organigramme, que Plutarque soit s'inspire d'une source qui associe les deux thèmes, soit combine même les deux. En même temps, l'ensemble paraît ancré topographiquement des deux côtés de l'emplacement choisi, quelque part à l'angle du temple de Fortuna, de sorte que le lecteur puisse apercevoir à la fois la Via Triumphalis, le cirque Flaminius, ou du moins les pré-flaminiens, ainsi que le temple de Fortune. Donc ça fait toute une séquence qui est soit à une logique de digression et qui s'inspire d'une source, mais qui toujours se raccroche quelque part à la topographie, de temps à autre. Dans les questions suivantes, le thème change. Pourquoi, question 76, ceux qui sont réputés l'emporter par la naissance, les Eupatrides, portent-ils des petites lunes sur leurs chaussures? Est-ce, comme le dit Castor, un érudit, un symbole de leur prétendue résidence sur la lune, et de ce qu'après la mort, les âmes ont à nouveau la lune sous les pieds? C'est l'immortalité lunaire, en quelque sorte. Ou bien, ce privilège est-il accordé aux plus anciennes familles, celles qui étaient en effet des Arcadiens, de l'entourage des Vendres, qu'on appelle les pré-séléniens, les pré-lunaires, en quelque sorte? Ou bien, comme dans de nombreux autres cas, est-ce que cette coutume rappelle aux orgueilleux, aux vaniteux, que les affaires humaines évoluent dans un sens ou dans un autre, en prenant comme exemple la lune? Et il cite un poème: de l'obscurité, d'abord elle sort dans la nouveauté, de visage qu'elle part est complète, et lorsqu'elle brille dans toute sa noblesse, à nouveau elle décline et s'en retourne au néant. Ou bien était-ce une leçon d'obéissance qui leur apprenait à ne pas se plaindre quand ils étaient gouvernés par des rois, de la même manière que la lune accepte d'honorer son supérieur et être seconde. Toujours regardant avec anxiété vers la lumière du soleil, selon la formule de Parménide. De même doivent-ils se contenter du second rang, sous leur chef, et jouir du pouvoir et de l'honneur qu'il leur confère. Plutarque prend les trois éléments de la question, les croissants de lune ornant les chaussures des sénateurs, qui constituent un privilège réservé à quelques-uns, et les associe de façon diverse. Dans la première explication, il considère l'énoncé fait par les lunules elles-mêmes sur les chaussures des sénateurs. Cette association dit quelque chose qui concerne l'âme des sénateurs, leur privilège d'immortalité. Dans un deuxième temps, il ne considère que les nobles en interprétant ce fait comme le privilège des plus anciens des Romains, qui portaient un nom quelconque. Et la lune se réfère uniquement à ce nom qu'il portait. Enfin, les petites lunes enseignent quelque chose aux sénateurs, c'est-à-dire ils doivent se soumettre aux puissants, comme la lune se soumet au soleil. Et comme elle augmente et diminue, elle est donc pleine d'enseignements. Comment rattacher maintenant cette question, assez étrange, à la précédente ? On pourrait penser au temple de lune et de sol qui se situe près du grand cirque, et il faudra voir dans la suite si cette hypothèse est possible. Il existait aussi sur le Palatin un temple de Luna Noctiluca, la lune qui était éclairée toute la nuit. L'idée surgit alors que par le biais de ce temple, notre question puisse encore appartenir au thème de la lampe qu'on n'atteint pas, qui brille toute la nuit. Mais j'avoue que tout ça est artificiel et trop éloigné. En revanche, un tout autre rapprochement est possible. Sur le Capitole existait, à proximité de l'aire capitoline, un local, la Curia Calabra, dans laquelle un pontife mineur annonçait, le premier de chaque mois, la date des nones et des ides du mois qui commençait. Dans le calendrier romain, en effet, vous le savez, ces dates changeaient selon les mois. Tantôt les nones tombaient le 5, tantôt le 7, et les ides tombaient tantôt le 13, tantôt le 15. Et il fallait annoncer, en tout cas c'était rituellement annoncé au début de chaque mois. Or, cette annonce-là, le premier du mois, le pontife la faisait à l'apparition de la première phase lunaire, comme Varron et Macrobe l'attestent. Par exemple, Varron, dans la langue latine 6.27, écrit « Les nones sont appelées nouveaux mois à cause de la nouvelle lune. » Et Macrobe précise, dans les Saturnales 1.15.12, « Quant à la raison pour laquelle le pontife mineur annonçait par appel le nombre de jours qui devaient s'écouler jusqu'aux nones, c'est qu'après la nouvelle lune, la population qui vivait à la campagne devait se rendre à la ville le jour des nones pour les réunions, pour les marchés. » C'est-à-dire le pontife mineur faisait un certain nombre d'invocations et tout le monde comptait et savait dans combien de jours avaient lieu les nones et les ides. Nous pourrons donc supposer que le lecteur imaginaire s'est remis en marche en remontant vers le forum par le Vicus Jugarius et en longeant le Capitole. De ce fait, comme nous l'avons déjà suggéré plus haut, il peut débattre alors d'une question concernant le Capitole. Il l'a fait déjà la première fois que nous sommes passés par là. De façon implicite, Plutarque partirait de la célèbre annonce mensuelle du pontife mineur à cet endroit dans la Curia Calabra, qui est au-dessus de vous quand vous passez là, pour parler des lunules sénatoriales en rapport avec le soleil et la lune. Parce que tout cela aurait un rapport, vous le voyez, avec Jupiter aussi et Junon. Voyons si cette hypothèse est confirmée par les questions suivantes. 77, sur quoi porte-t-elle ? Ce n'est plus un jeu, n'est-ce pas ? On est à chaque fois déçu. Pourquoi pense-t-il que l'année appartient à Zeus, les mois au contraire à Héra ? Eh bien voilà, Jupiter et Junon. Est-ce parce que Zeus et Héra règnent sur les dieux invisibles et qu'on ne peut percevoir que par l'esprit, tandis que le soleil et la lune règne sur les dieux visibles. Or, le soleil fait l'année, la lune les mois. Mais il ne faut pas croire que ceux-ci sont simplement des images de ceux-là. Zeus en personne est matériellement le soleil et Héra en personne est matériellement la lune. C'est pour cela qu'ils appellent Héra Juno, un nom signifiant jeune ou plus jeune à partir de la lune. Et ils appellent Héra Lucina en tant qu'elle est brillante et lumineuse et ils croient qu'elle aide dans les accouchements et les douleurs de la grossesse, comme le fait également la lune, à cause de la sombre enceinte de la voûte astrale et grâce à la lune qui facilite les enfantements. C'est un poème de Timothée de Milet qui vécut entre 450 et 360 environ avant Jésus-Christ. Car ils estiment que les accouchements sont plus faciles les jours de pleine lune. De toute évidence, cette question confirme ma reconstruction. La question 77 concerne le calendrier, ainsi calendrier qui était en cause à l'état implicite dans la question précédente, quand vous passiez sous le Capitole et la Curia Canabra, où le calendrier était chaque mois annoncé. Et elle concerne également Jupiter et Junon. Autrement dit, la question se réfère de deux manières au Capitole. Vous passez en bas, vous pensez Curia Calabra, Junon, le Capitole avec Jupiter, Junon, il y a aussi Minerve qui n'intervient pas. En outre, comme Georges Dumézil l'a déduit du fait que les calendes de chaque mois appartiennent à Junon, le premier du mois appartient à Junon Lucina, la déesse qui préside aux enfantements, gouverne aussi le début du mois, lors de la renaissance de la Lune. Et Dumézil de citer le fait que l'observation de la Lune et l'annonce rituelle « Je proclame Junon Coella, Calo Juno Coella », c'est cela que criait le pontife mineur, 5 ou 7 fois. Elles n'ont de sens, cette proclamation n'a de sens que si la croissance de la Lune est en cause et que si Junon est aussi censée gouverner les phases lunaires. Elle fait croître, elle accouche la nouvelle lumière, le nouveau mois, et elle le fait croître. Jeune, plus jeune, etc. Plutarque aussi fait allusion à la croissance. Autrement dit, nous nous trouvons exactement dans le cadre topographique et rituel que nous a suggéré la question 76. L'auteur s'inspire de la Curia Calabra, du rite pontifical et du temple de Jupiter Capitolin. Alors que la question précédente parlait de la lune et des chaussures sénatoriales, celle-ci évoque clairement le calendrier, le soleil, la lune, Jupiter et Junon. J'en conclus donc que j'ai raison de dire que le lecteur est censé remonter le Vicus Jugarius. Est-ce que la question suivante confirme cette idée? Je vous dis, il n'y a plus de suspense. De quoi parle-t-elle? 78e question. Pourquoi celui des oiseaux qui est dit à gauche est-il de bon augure? Est-ce en fait que ceci n'est pas vrai et que leur langue trompe beaucoup de monde, car ils désignent la gauche par sinistrum et permettre par sinere, et quand ils demandent une permission, ils disent sine, permet. Donc l'oiseau qui autorise l'action est sinisterius, je transcris tels qu'ils figurent dans le texte. Et la plupart des gens le croient et l'appellent par erreur sinistère. Ou bien, comme le dit Denis d'Halicarnasse 255, est-ce parce que quand Ascagne, le fils d'aîné, rangeait ses troupes en bataille contre Mésence, il s'est produit un éclair porteur de victoire sur la gauche des preneurs d'auspices, qu'ils ont conservé cette donnée pour le futur? Ou bien, comme d'autres l'affirment, est-ce parce que ceci est arrivé à aîné lui-même? D'ailleurs, les Thébains, qui ont mis en déroute et écrasé leurs ennemis à Leuctre, sur leur aile gauche, ont continué à privilégier l'aile gauche dans toutes leurs batailles. Ou plutôt, comme le dit Juba, est-ce que, pour ceux qui regardent vers l'est, le nord se trouve sur la gauche, qui est considérée comme la partie droite et supérieure du monde? Mais voici, ce n'est pas parce que le bon côté est plus faible que ceux qui sont proposés aux auspices le renforcent et compensent son manque de puissance par ce rééquilibrage. Ou bien, pensant que ce qui est terrestre et mortel est opposé à ce qui est céleste et divin, croit-il que ce qui apparaît à la droite des dieux correspond à ce qui est à gauche chez nous? Nous pouvons, je n'entre pas dans le détail, c'est une longue question et complexe, mais construite de façon très rigoureuse comme toujours. Ce ne sont pas des idées jetées sur le papier comme ça. Nous pouvons d'abord relever que cette longue question, dans laquelle je n'entrerai pas, comme je dis, renoue avec les questions sur les augures. Mais je ne pense pas qu'ici, comme du reste dans la question qui fait allusion à l'annonce du pontife mineur, Plutarque soit encore sous l'emprise de la source concernant les prêtrises. C'est plutôt un rapprochement topographique qui s'impose ici, qui déclenche de nouvelles interrogations. Notre lecteur longe le Capitole, comme nous l'avons supposé, et arrive au forum. Et s'il s'avance jusqu'au comitium, il peut voir, vers le nord, l'arx, la citadelle, au pied de laquelle se trouvait l'auguratorium, ou auguraculum, une plateforme qui servait à prendre les auspices. Mieux même, en arrivant au croisement du Vicus Jugarius avec la voie sacrée, la Sacra Via, à peu près à l'endroit où se trouve le lecteur, entre le temple de Saturne que vous voyez à droite et le futur arc de Septime Sévère qui se trouve derrière, il peut aussi évoquer, à cet endroit où se tient mon petit bonhomme, il peut évoquer, s'il est un peu érudit, le Iugus Auspicium, cette règle augurale relativement obscure qui oblige les attelages à dételer au passage du cortège des augures, se rendant précisément de cet allauguratorium ou en redescendant par la voie sacrée. Les gens du commun se rappelaient certainement les processions d'augures passant régulièrement à cet endroit et à cette étrange règle que quand cette procession avait lieu, on arrêtait tous les attelages et on faisait dételer parce qu'il était interdit que les bœufs fassent du fumier sous un joug. Une étrange règle. Ceux que cela intéresse peuvent trouver des explications intéressantes chez Dumézil. J'y vois en tout cas ici une autre confirmation de mon hypothèse, n'est-ce pas? On parle des augures parce que vous êtes au croisement des augures, en quelque sorte, où il y a cette célèbre coutume. Et les questions suivantes me donnent raison. Pourquoi était-il permis, 79e question, de prendre un os d'un triomphateur défunt qui avait été incinéré et de l'introduire dans la ville pour l'y enterrer, ainsi que le raconte Pyrrhon de Lipara, autrement inconnu? Est-ce pour honorer le défunt? Car ils ont accordé à d'autres grands hommes et généraux le droit d'être ensevelis sur l'agora, et non seulement à eux, mais aussi à leurs descendants, comme ce fut le cas pour Valerius Publicola, et Fabricius Luscinus, consul en 278 avant Jésus-Christ. Et l'on dit que lorsque les descendants de ceux-ci meurent, et que leur dépouille est posée à l'agora, on place sous eux une torche allumée, qui est enlevée aussitôt, en les faisant ainsi bénéficier de cet honneur, sans susciter l'envie, et en confirmant seulement qu'ils en ont le droit. On va au forum parce que dans les grandes familles, il est de tradition qu'on porte le cercueil, enfin le lit funèbre, au forum sur les rostres, le grand tribunal du comitium, à l'endroit où on est, pour faire l'éloge du mort. Et c'est à ce moment-là qu'on fait ce rite avec la torche, pour les grands personnages, les descendants de ces triomphateurs. La question n'évoque pas, comme je l'ai lu quelque part, la coutume du doigt coupé avant l'incinération des défunts, dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais offre au contraire une illustration tacite de la coutume du prélèvement d'un fragment d'os du défunt après l'incinération sur le bûcher, ainsi qu'une lecture précise des textes antiques permet effectivement de la reconstituer. Ce rite n'est d'ailleurs pas une purification, mais la nécessaire observation de la prescription que les défunts soient inhumés, c'est-à-dire recouverts de terre. Il faut absolument, même quand vous êtes incinéré, mis dans une urne et placé dans un mausolée au-dessus de la terre, il faut au moins qu'une partie de votre corps, c'est-à-dire un ossement prélevé, soit inhumé, c'est-à-dire mis sous la terre. C'est là qu'il est question. Ici, on le voit, sans cet ensevelissement, la tombe n'existe pas sur le plan juridique. Ici, on le voit, le prélèvement de l'os concerne une personne incinérée et le rite de l'inhumation est opéré ailleurs que dans la nécropole où la dépouille a été brûlée. L'inhumation se fait sur le forum. Normalement, il était interdit, depuis le 5e siècle, depuis les lois des 12 tables, de brûler et d'inhumer quelqu'un à l'intérieur de la ville. Voilà le privilège. Manifestement, quelques triomphateurs en ont reçu le privilège. C'est-à-dire qu'on leur construit sur le forum, quelque part, un monument sous lequel on inhumait un os prélevé sous leur bûcher, sans y inhumer leurs cendres et tout ce qui était en fait interdit. D'après le droit sacré romain, en tout cas, ce rite était suffisant pour conférer au monument dans lequel cet os était inhumé le caractère d'une tombe. Mais ce n'est pas ce détail rituel qui nous intéresse. Le lien avec la question précédente est clair, non seulement parce qu'une allusion directe au forum y est faite, mais on ne se contente pas, vous le savez, de ces allusions directes, mais parce que le lecteur se trouve sur le parcours triomphal, sur la fin du parcours triomphal qui passait exactement à cet endroit. Sur la voie sacrée pour monter vers le temple capitolin. Et vous vous trouvez là où j'ai mis le petit bonhomme. La question donc triomphateur, voie triomphale, c'est non seulement le croisement des augures, mais c'est aussi... votre proposition. Pourquoi, quand ils honoraient par le banquet public ceux qui avaient triomphé, invitaient-ils les consuls tout en leur envoyant dire qu'ils n'avaient pas à venir au dîner, ce qui est une coutume très romaine. Nous sommes donc dans le même thème et dans la relation topographique précédente, mais nous notons que Plutarque introduit maintenant les consuls, c'est-à-dire les magistrats. En effet, le lieu où il a mené le lecteur, près du comitium, convient à un questionnement sur les magistrats. On s'en rend immédiatement compte en lisant la question 81. Pourquoi le tribun ne porte-t-il pas la toge bordée de pourpre alors que les autres magistrats la portent? Est-ce parce qu'il n'est pas du tout un magistrat? Car les tribuns n'ont pas des licteurs, vous savez maintenant ce que c'est un licteur, n'officient pas assis sur une chaise curule, n'entrent pas en fonction en début d'année comme tous les autres magistrats, et lorsqu'on élit un dictateur, qui est une fonction exceptionnelle, ils sont seuls, les tribuns, à ne pas cesser leur fonction et à rester en place, même si celui-ci, le dictateur, attire sur lui toutes les magistratures, comme s'ils n'étaient pas en fait des magistrats et qu'ils eussent en quelque autre rang. Je saute une partie. L'opposition au pouvoir d'un magistrat et l'annulation de l'abus de pouvoir constituent le pouvoir et la puissance de la fonction de tribun. Ou bien, dernier argument, est-ce que ces arguments ou d'autres semblables peuvent être l'effet de la fantaisie? Le tribunat tirant sa naissance du peuple, l'élément populaire est fort, et l'important est de ne pas se sentir supérieur aux autres, mais de ressembler à ceux qu'on rencontre par l'apparence, le vêtement, par le style de vie, et ainsi de suite. Cette longue question dans laquelle Plutarque décrit le statut particulier des tribuns de la plèbe est très précisément attachée à l'endroit où se tiennent l'auteur et le lecteur, car l'ancien siège des tribuns de la plèbe se trouvait au comitium, à côté de celui des préteurs. C'est là qu'on rendait la justice et c'est là que siégeaient les préteurs et le siège officiel des tribuns était à côté pour contrôler les éventuels excès de pouvoir des préteurs qui rendaient surtout la justice. On peut donc considérer que l'introduction des consuls dans la question 79 avait pour fonction d'orienter la question vers l'examen de quelques problèmes concernant les magistrats, ou plutôt sur les privilèges et les prérogatives des magistrats. Et vous voyez comment il amène cela en partant du temple de la Porta Carmentalis en bas, là, par le Vicus Jugarius. Il commence à parler du début du mois, n'est-ce pas, un cadre. Il commence à parler des sénateurs, des puissants, de la manière dont il faut garder tête froide quand on est puissant, puis les auspices, qui sont le début de tout acte de magistrature, tout ça prépare dans l'esprit des Romains une question sur l'exercice du pouvoir. Et puis, nous y sommes, les triomphateurs qui sont là aussi, les consuls, les tribuns de la plèbe, et la question suivante, évidemment, je n'ai même pas besoin de préciser sur qui elle porte. Elle porte sur les prêteurs. Pourquoi porte-t-il les bâtons des licteurs, pardon, liés en faisceau et une hache attachée à elle? C'est pas les prêteurs, c'est les licteurs, bien entendu. Est-ce parce que c'est un symbole de ce que la colère du magistrat ne doit pas être prompte ni se déchaîner? Ou bien est-ce que le fait de délier lentement les verges par le retard et le délai imposé à la colère a souvent provoqué un changement d'avis du magistrat à propos du châtiment? Comme le vice est soit guérissable, soit incurable, les verges font réfléchir ceux qui sont capables de changer, alors que les haches tranchent ce qui est incorrigible. J'ai mis même dans le texte « prêteur » parce que c'est évident que l'un de ceux qui ordonne à Rome, en tout cas aux licteurs, de détacher les faisceaux et de donner la bastonnade, n'est-ce pas, c'est le prêteur qui rend la justice. Mais c'est aussi, bien entendu, une prérogative des consuls. Il y a les deux qui ont des licteurs qui sont des moyens de coercition vivants qu'ils ont à leur côté et qui sont à côté quand il y a une instruction. Le thème des insignes et des privilèges des magistrats est donc toujours le même. Il renoue également avec la topographie, car c'est de toute évidence le tribunal du prêteur au comitium, qui est juste devant vous, qui évoque la réflexion sur le thème de la punition des coupables. Je choisis de placer ce tribunal à l'endroit traditionnel, l'endroit ancien, qui est, si vous voulez, juste devant la curie du Sénat, que vous avez sans doute visité. Plus tard, les choses deviennent plus complexes et les prêteurs auront d'autres tribunaux, par exemple à l'autre extrémité du forum. Tout cela ne change rien. Nous sommes sur la place du forum, nous regardons devant nous ou à droite, peu importe. C'est l'endroit où on rend, à l'époque de Plutarque encore, la justice. La justice d'assises et tout ce que vous voulez. Et en même temps, ce thème des privilèges du magistrat évoque ici, prend, déjà avec les tribuns, il a pris un pli un peu particulier qui est ici accentué, il mène vers la punition des coupables, vers la répression, vers le châtiment. Le châtiment mûrement réfléchi et proportionné du magistrat que développe la deuxième partie de la 82e question crée maintenant une passerelle vers la longue question 83. 83 donc. Pourquoi, après qu'ils eurent appris qu'ils avaient sacrifié un homme aux dieux, ont-ils appelé les Blétonésiens, c'était les Lusitaniens, des barbares? Et pourquoi, alors qu'ils eurent fait venir leurs magistrats pour les châtier, les ont-ils finalement acquittés quand il parut qu'ils avaient fait cela en vertu de quelques coutumes locales? Mais leur ont-ils interdit pour l'avenir? Et pourquoi ont-ils eux-mêmes, peu d'années plus tôt, enterré vivant deux hommes et deux femmes à l'agora dite des bœufs, les uns grecs, les autres gaulois? Il semble en effet absurde de célébrer eux-mêmes des rites qu'ils reprochèrent ensuite aux barbares, sous prétexte qu'ils étaient impies. Dès la question initiale, nous constatons que Plutarque parle de châtiment. Car ils veulent d'abord châtier les magistrats des Blétonésiens avant de renoncer à le faire, puisqu'ils découvrent qu'il s'agit d'une coutume ancestrale. C'est donc ce premier élément qui sert de transition. Nos licteurs et la répression du prêteur vers ce que les magistrats firent à ces pauvres Blétonésiens et qui avaient fait une erreur grave. Ils sont fait taxer de barbares parce qu'ils avaient fait des sacrifices humains. La question est très longue et contient encore d'autres éléments qui expliquent la transition. La première question-réponse que Plutarque donne est purement rituelle ou théologique, si vous voulez. Est-ce qu'ils ont jugé qu'il était impie de sacrifier des hommes aux dieux, mais nécessaire ou utile de les offrir aux démons? Les interprétations donc essayent d'expliquer l'apparent illogisme des Romains. Dans la première réponse, Plutarque donne ici un argument théologique au premier mouvement des Romains qui était de punir les barbares, que Plutarque me paraît désigner ici du nom de démon. Ce qui apparaît comme impie ne l'était pas chez eux, puisqu'ils s'adressaient au dieu d'en bas qui reçoivent régulièrement des victimes humaines, notamment dans ce rite de l'inhumation de personnes vivantes. D'après la deuxième interprétation fort longue, il n'existe pas de contradiction dans la conduite des Romains, car ils ont agi sous l'injonction des livres sibyllins, plus contraignante encore qu'une simple coutume. Ou bien ont-ils cru que ceux qui faisaient cela en fonction d'une coutume commettaient une faute? Ensuite, Plutarque raconte l'histoire qui conduisit en 114 avant Jésus-Christ à l'une des célébrations du rite d'ensevelissement de Gaulois et de Grecs vivants.
C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec John Shedd. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé.
He always sets a pack. Norman always jumps a jack. Every hand that he shows is a flush or a strip. Well, let me tell you, Norman never lose, always win. Yet Norman never give away a pin. If you ask him for less, he said he wants more. He always sets the pack. Norman always jumps a jack. Yeah. Norman the gambler rides around in a rambler. He never play fair, so don't you go down there. He knows every jack in the back. He knows every trick up his sleeve. He travels in a rambler. His living is a gambler. Brother called Norman. He never play fair. So don't you dare to go there. You should never go there. Should never go there at the casino. You should never go there, Wilson will say. At the casino, you will lose everything. Casino Raya.
France Culture à Saint-Afrique, c'est sur 94.4.
C'est Catherine du bureau, elle demande pourquoi t'es pas au cocktail du Point Soleil.
À ton avis? C'est dingue que tu te sois pas rendu compte. Ah, ça va, je suis pas à leur disposition.
Il est pas à votre
disposition. On chie, c'est une verre fou.
Allez vous faire foutre.
Quand tu leur as dit? Mais tu crois de m'en cingler, c'est pas possible.
Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris.
France Culture présente De particulier à particulier, un film de Brice Covin avec Hélène Filière, Laurent Lucas, Anouk Aimé et Julie Gaillet.
On vient de déposer nos enfants à la campagne, on part demain.
Vous allez où?
Europe, à Venise.
L'histoire d'un drôle de couple qui s'apprête à partir en voyage mais qui n'a plus envie d'y aller.
Ah, mais on sait comment c'est, Venise, le Soupir, la place Saint-Marc, les gondoles, on n'a pas besoin de les voir pour savoir comment c'est.
Qui veut déménager mais ne sait plus très bien pourquoi, où, ni comment. L'histoire d'un homme et d'une femme qui s'égarent chacun de leur côté pour mieux se retrouver. Particulier à particulier,
tu bosses ou quoi ?
Une comédie de Brice Covin, en salle le 19 avril, à retrouver dans les émissions de France Culture.
Ça suffit maintenant, j'en ai assez !
On recommence à avoir une vie normale. On a peut-être envie d'avoir des choses à soi, des choses qu'on se paie, qu'on s'achète, qui vous appartiennent, qui sont à vous, parce que vous avez fait quelque chose pour les avoir. Tu vois, ça peut être la couleur de son pull, de son pantalon, de sa chemise, de je ne sais quoi. Que ce ne soit pas des choses qui soient plus ou moins imposées, de pouvoir choisir ce qu'on met sur son dos, en fin de compte, vraiment.
Du 5 au 26 avril, la précarité dans Terre Insensible. Une série de 4 documentaires consacrés à la précarité, ou plutôt au précariat. L'ensemble des catégories très hétérogènes des personnes qui vivent un travail précaire. Stagiaires, travailleurs sans domicile fixe, double travail et travail flexible. 4 documentaires suivis d'un débat pour interroger le précariat d'aujourd'hui.
J'ai les moyens, hein, je sais pas, ils peuvent mettre une loi, je sais pas, ils prévoient des jeunes, je sais pas. Après, nous, on paye par facilité, admettons, ils nous avancent l'appartement, et nous, on paye par facilité tous les matins. Ils peuvent le faire, ça, je sais pas. Moi, ils investissent dans des guerres, dans des trucs vraiment, je comprends pas.
Terre Insensible, chaque mercredi, du 5 au 26 avril à 15h. Tchernobyl, 20 ans déjà. La plus grande catastrophe technologique et écologique du 20e siècle. À l'occasion de cet anniversaire, France Culture a choisi de faire entendre la voix des victimes. Toutes les victimes du nucléaire. D'Hiroshima, en août 45, de Tchernobyl, en avril 86, des irradiés des essais nucléaires français. Du 10 au 30 avril, textes de fiction et documentaires alterneront à l'antenne pour se faire l'écho de ces voix. Tchernobyl, 20 ans déjà, France Culture rend hommage aux victimes du nucléaire, du 10 au 30 avril. Dossier complet sur franceculture.com. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture.
Bonjour. Votre matinée sur France Culture, 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire, cette semaine les amitiés intellectuelles, et ce matin le sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet, Université des Neiges, un sanatorium à l'initiative de l'Union nationale des associations générales des étudiants de France, et qui deviendra très vite un foyer culturel très actif, au point de devenir l'étape obligée des conférenciers ou des vedettes de la chanson. 10h, le temps des humanités, c'est aujourd'hui celui des mardis littéraires, tournés vers Maïakovski, Zagnatine, Gogol. 11h, fiction feuilleton, lettres d'Engadine, de Franck Venaille, deuxième épisode. Enfin 11h30, les chemins de la connaissance sur le thème dragon, gargouilles et tarasques, nous font voyager dans toute la variété des morphologies composites du dragon, animal fabuleux et presque universel dont la nature ambivalente nous ouvre une voie initiatique. Invité ce matin, Bernard Sergent, historien des religions et spécialiste de mythologie celtique. Mais tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas de Morant.
6h58, bonjour à tous et bienvenue sur France Culture. Le programme de ce mardi 18 avril 2006 avec la Corée du Sud à 7h20 dans les enjeux internationaux. La Corée du Sud dans ses relations avec les grands pays voisins. 7h40, invité de France Culture ce matin, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Il publie chez Fayard un livre sur l'Europe, livre qui s'intitule « L'Europe autrement » et qui est barré d'un bandeau annonçant fièrement sur la couverture « Enfin un plan B ». Le fameux plan B surgit pendant la campagne sur le référendum l'année dernière. Celui concocté par Édouard Balladur tient en quelques mots, c'est l'Europe des cercles. Entendez par là une Europe à plusieurs vitesses avec le noyau dur des 25, puis bientôt 27 États membres, des pays qui veulent une intégration maximale. Premier cercle entouré d'un autre cercle, fondés sur des coopérations renforcées, puis des cercles d'alliés, de pays amis, des cercles plus ponctuels. Il s'agit de faire de l'Europe avec ceux qui le veulent vraiment et de faire cesser les élargissements qui vont la diluer, nous dit Édouard Balladur, qui la rendent abstraite et ingouvernable. Ça fait quand même beaucoup. Voilà, on parlera donc de ce plan B aujourd'hui et de bien d'autres choses. Le regard d'Édouard Balladur sur la crise que vient de traverser la France, crise politique et institutionnelle. Il sera intéressant de savoir comment l'homme du CIP et des manifestations de masse a vécu le moment du CPE et des manifestations de masse. Et dans la dernière partie de l'émission, je suis certain que bien d'autres sujets inviteront dans la discussion. Édouard Balladur, donc, invité aujourd'hui des matins. Et à 7h, la première édition du journal vous est présentée par Renaud Candelier. Bonjour Renaud.
Bonjour. Le dossier du nucléaire iranien occupe la scène internationale jusque dans les réunions entre Pékin et Washington. Relations tendues sur le plan économique. Jean-Claude Pajac nous expliquera en quoi le cours du yuan nuit au commerce extérieur américain. Un attentat suicide a frappé Tel Aviv hier, le premier depuis l'arrivée au Hamas, du Hamas au pouvoir. Correspondance d'Isabelle Dor. Cet attentat ne devrait pas simplifier l'action du Hamas dans les territoires palestiniens. Le mouvement radical est contesté par le Fatah et il y a un risque d'affrontement entre Palestiniens, nous dira Laetitia Bucaille, spécialiste du Proche-Orient. Zakarias Moussaoui est atteint de schizophrénie. Plusieurs témoignages sont venus appuyer cette thèse hier. Vous entendrez dans ce journal son avocat. Enfin, les vins de Bordeaux passent à la distillation pour écouler la surproduction. Explication de Sophie Lemaire. 4 jours, c'est une visite d'envergure du président chinois aux États-Unis. Au programme, désamorcer les tensions commerciales et aborder la question du nucléaire iranien. Hu Jintao est attendu en fin de journée à Seattle pour rencontrer d'abord Bill Gates avant la visite demain d'une usine Boeing, puis l'entretien avec George Bush jeudi, où il sera à nouveau question de la sous-évaluation du yuan qui favorise les exportations chinoises. Jean-Claude Pajac.
Les pressions américaines sur le yuan seront d'autant plus fortes que le président chinois arrive précédé par la publication de nouveau d'une croissance à deux chiffres, 10,2% pour le début 2006, alors que le gouvernement s'était engagé à un ralentissement autour de 8%, un rythme qui a permis à la Chine de devenir en 2005 la 4e puissance économique mondiale, mais un rythme qui commence à sérieusement faire douter les Américains. La Chine respecte-t-elle les règles du jeu commercial? Le yuan n'est-il pas volontairement sous-évalué pour favoriser les exportations et les délocalisations, alors que le déficit américain continue de s'aggraver pour dépasser maintenant les 200 milliards de dollars? Un projet de loi vient d'être déposé taxant les importations chinoises de 27% si le yuan n'est pas réévalué. Certes, l'interdépendance entre les deux économies interdit la guerre commerciale, mais la pression est très forte et le président chinois pourrait faire un geste également pour des raisons de politique intérieure. Pékin semble prendre conscience des dégâts sur la société de cette croissance ultra rapide. De façon significative, le président Hu Jintao affirme vouloir mettre dorénavant l'accent sur la protection des ressources et de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire sur le qualitatif.
Et le prix du pétrole brut continue de monter, 70 dollars aux États-Unis hier soir, conséquence de la baisse des stocks outre-Atlantique et de l'inquiétude liée à l'Iran. Le dossier nucléaire iranien au cœur des préoccupations de Washington, avec une autre visite hier, mystérieuse celle-là, alors que les États-Unis réfléchissent à des sanctions par le biais de l'ONU. Un haut responsable iranien, conseiller économique Dari Larijani, le négociateur du dossier nucléaire, se trouvait à Washington, présence confirmée par le département d'État qui n'a pas voulu donner plus d'explications. À l'opposé de la position américaine, la Russie croit dans un règlement diplomatique de la crise. Les 5 permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne se retrouvent à Moscou aujourd'hui pour réaffirmer ce principe. Un choix guidé notamment par des risques financiers pour la Russie qui a investi près $1 milliard dans la construction d'une centrale nucléaire iranienne. Les actions de l'Iran, de la Syrie et du gouvernement palestinien sont une déclaration de guerre pour l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Lors de la session du Conseil de sécurité sur le Proche-Orient, Dan Gillerman a demandé des mesures rapides pour prévenir de prochains attentats après celui qui a frappé la gare routière de Tel Aviv hier. C'est le premier attentat en Israël depuis la victoire du Hamas aux législatives palestiniennes. Un jeune homme s'est fait exploser dans la gare routière de Tel Aviv, faisant au moins 9 morts et des dizaines de blessés. L'attentat a été revendiqué par 2 organisations extrémistes à Jérusalem, Isabelle Dor.
Malgré l'état d'alerte renforcé pour les fêtes de la Pâque juive, un activiste palestinien a réussi à déjouer tous les contrôles et les barrages pour se faire exploser au cœur de Tel Aviv, précisément à l'endroit où un autre kamikaze avait déclenché sa bombe en janvier dernier et le jour même où les députés de la nouvelle Knesset prêtaient serment. Nous saurons répondre de manière appropriée, a déclaré le Premier ministre Ehud Olmert, qui doit examiner avec les responsables de l'armée et des services de sécurité les moyens à mettre en œuvre pour répliquer à cet attentat et en éviter d'autres. Lors d'une première réunion hier soir, ils ont préconisé la poursuite des actions ciblées contre les activistes et les leaders des factions armées, ainsi que des incursions ponctuelles pour détruire les cellules terroristes, plutôt qu'une grande opération de ratissage en Cisjordanie. Autre option envisagée, boucler le nord de la Cisjordanie et séparer les villes du reste du territoire.